Bien, ben, nous allons peut-être commencer. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir. Ça intéresse tout le monde de discuter des implications politiques des réflexions anthropologiques, sociologiques de Marcel Mauss. Est-ce qu'on peut déduire, non pas un programme politique, mais en tout cas des valeurs politiques, des orientations politiques, à partir des thèmes que nous avons discutés depuis le début de ce séminaire. Alors, on va commencer peut-être, a priori, c'est une discussion amicale, pendant une heure et demie, quelque chose comme ça, parce que je sais qu'il y a aussi des obligations après. Certains voudraient préférer aller danser, donc faire des choses sympathiques. Mais je propose de commencer par d'abord, avant d'envisager l'avenir, en quelque sorte, un programme d'avenir, faire un petit retour en arrière sur les engagements politiques de Mauss et sur le rapport des engagements politiques de Mauss avec ses engagements scientifiques. Et ça renvoie très directement au travail fait par Sylvain Zimira dans son livre, dont j'espérais qu'il arriverait, La Découverte devait expédier des livres ici, mais ils ne sont pas arrivés apparemment. Donc son livre qui s'appelle Mauss, savant et politique. Sylvain, si tu veux nous dire quelque chose.
Alors j'ai 10 minutes, donc je vais essayer de faire rapidement. Je vais vous rappeler le projet donc, de Mauss de laisser sur le don, en une phrase, poser les questions qui le soulèvent, sur lesquelles j'apporterai toutes les réponses partielles, et ensuite comment il s'est traduit, donc au-delà de ce projet s'est traduit au-delà du seul essai sur le don. Le projet de Marcel Mauss de laisser sur le don, j'ai formulé l'occasion de la Mauss, c'est de rechercher donc, le roc d'une morale universelle de laquelle donc, Mauss puisse déduire des considérations politiques à l'usage de ses contemporains. Ce projet, c'est également celui du Mauss, dès sa leçon inaugurale, on va appeler ça comme ça, où donc, Alain pose explicitement que l'ambition du Mauss est à la fois positive et normative, en s'appuyant sur Marcel Mauss et Polanyi notamment. Alors, les questions qu'il soulève, alors elles sont de deux ordres, qui sont également les questions qui se posent au Mauss, au mouvement anticléricain dans les sciences sociales. Alors, elles sont d'ordre épistémologique et puis théorique. Épistémologique, le problème, c'est que Mauss défend, et le Mauss défend implicitement, donc un savoir qui se veut à la fois positif et normatif. Alors, ça pose problème au regard de l'épistémologie dominante, qui est une inspiration weberienne, sur laquelle il n'y aurait de science que celle qui ne s'aventurerait pas sur le terrain politique. Pour moi, alors, cette conception de la science, elle pose problème, elle pose le problème du sens, qui est absent. Je pense que cette science se perd si elle ne se donne pas des objectifs politiques. Et puis, ce n'est pas celle non plus de Durkheim, dans laquelle je m'inscris, donc, qui dit, je rappelle, tout le monde le sait, que la sociologie ne mériterait pas une heure de peine si elle n'était que spéculative, si elle n'avait aucun intérêt spéculatif. Donc, Mauss s'inscrit dans cette filiation durkheimienne, et au-delà, donc, la tradition sociologique française, parce que depuis en fait Saint-Simon, les sociologues français, Saint-Simon, Comte, Durkheim, Mauss, sont à la recherche d'une morale dont ils recherchent donc, les fondements à l'aide de la science. Alors, néanmoins, Mauss se distingue légèrement de Durkheim. Pour Durkheim, établit une division du travail entre les savants d'un côté et les politiques de l'autre. Aux savants, la tâche d'éclairer les faits. Aux politiques, celle d'établir des politiques à la lumière de ces faits éclairés par les savants. Pour Mauss, lui, se veut. Donc il faut être à la fois. On est savant, puis politique aux politiques. Mauss, lui, est à la fois savant et politique. Alors que pour Weber, donc, on ne pourrait être que savant ou politique. Alors, cette épistémologie pose problème. Néanmoins, je dirais que c'est la plus répandue. Assez paradoxalement. Pourquoi ? Parce que c'est celle de la science sociale qui tient le haut du pavé, c'est-à-dire des sciences économiques. Les sciences économiques, elles, sont manifestement normatives. Il existe des politiques économiques donc, qui sont étayées donc, sur une théorie qui repose sur une certaine vision de l'homme, celle de l'homo economicus. Néanmoins, cette dimension, les économistes dénient cette dimension normative au motif que leur considération politique est déduite d'un individu qui est amoral, qui est donc l'homo economicus. Ces conditions politiques sont déduites d'un individu qui est amoral, ces considérations politiques seraient elles-mêmes expurgées de toute considération normative. Bien sûr, ça ne tient pas. Eux ne rougissent pas de leur science normative, et donc je crois qu'ils ne vont pas rougir de la normativité d'une science qu'on chercherait à établir. Néanmoins, ça pose question, cette position épistémologique pose question, qui est celle des critères de pertinence d'énoncer qui se voudraient à la fois positifs et normatifs. Et là, j'y répondrai pas. Enfin, ensuite, des problèmes théoriques. Cette position, ce projet, qui est celui de Mauss et Dumauss, pose des questions théoriques. Alors, ce rôle de la morale universelle, tout le monde le sait, Mauss le voit dans le but. Il y a quand même des séries de questions qui se posent et qui ne font pas l'unanimité. D'abord, le don est... Donc il s'agit de fonder une morale universelle sur un phénomène lui-même universel. Le don est-il universel ? Testard, par exemple, n'y croit pas. Le don contient-il une morale intrinsèque ? Hans Berger, par exemple, n'y croit pas. Beaucoup d'auteurs n'y croient pas. Cette morale, si jamais elle existe, se suffit-elle à elle-même ? Certains n'y croient pas, dont certains anciens, comme Jacques Godbout, par exemple, considèrent que la morale humaine a besoin d'une autre morale qui lui serait extérieure et transcendante. Donc voilà, un ensemble de questions qui posent Homos et Homos. Deuxième série de questions, sur quel don fonder cette morale ? Manifestement, sur le don agonistique, sur le potlatch, il n'est question que de cela dans l'essai sur le don. Alors, problème, c'est que Homos nous dit que le potlatch est un phénomène relativement rare. Comment prétendre fonder une morale universelle sur un phénomène relativement rare ? Deux questions, deux réponses à cette question. Un, parce que tous les dons seraient agonistiques, donc pas de problème, le don agonistique est universel, ce que je ne crois pas. Deuxième réponse possible à cette question, c'est que partout, toujours et partout, l'histoire commune des hommes commence par un don agonistique. C'est-à-dire que les dons d'alliance contiennent toujours une dimension de rivalité. Dès lors qu'il s'agit de s'allier avec un autre, il faut d'abord s'affirmer soi, en tant que différent de l'autre, et dans cette affirmation de soi, je pense qu'il y a une part de rivalité. Donc, on peut bien fonder une morale universelle sur un phénomène qui, pourtant, est relativement rare, selon Mauss lui-même. Ensuite, deuxième problème théorique, déduire une morale universelle des préconisations politiques d'une morale universelle. Cette opération de déduction, en quoi consiste-t-elle ? Tu l'as bien dit dans un article, Alain. Il ne s'agit pas de déduire un projet politique d'une morale comme on déduit des effets d'une cause. Tu dis qu'il s'agit davantage d'une opération de traduction. Comme toutes les opérations de traduction, elle laisse une certaine liberté au traducteur, mais une liberté contrainte, puisqu'il s'agit de traduire un fait. Et en fait, on doit se donner la plus forte contrainte possible en allant étudier de manière très précise et au plus près de la réalité, donc ces faits très concrets, comme le fait Mauss. Donc on ne peut pas déduire n'importe quelle morale donc, du fait de la publication de données, recevoir et rendre. Troisième problème théorique, celui des considérations politiques à l'usage des contemporains. En quoi consiste, quel est le statut de ces considérations politiques ? Pour Mauss, comme pour le Mauss, je crois, il ne s'agit pas de dire ce qui serait souhaitable, mais simplement de dire ce qui serait possible. Mauss s'inscrit dans une tradition qu'on appelle la tradition possibiliste au XIXe siècle, d'ailleurs très inspirée de ce qui se faisait à l'époque en Angleterre. Donc Mauss est un anglophile. En ce sens, Mauss est un réformateur, contrairement, et non pas un révolutionnaire, même s'il a pu se dire révolutionnaire. Il ajoute, je recherche le possible, mais tout le possible en direction du souhaitable, en ce sens, c'est un radical. En quelque sorte, Mauss serait un réformateur radical. Si maintenant, comment s'est traduit le projet politique de Mauss, de manière très concrète, je voulais simplement, en préambule, dire que moi je n'ai pu mettre en relation les écrits académiques de Mauss et ses écrits politiques qu'après avoir compris en fait le projet du Mauss. Après avoir compris en quoi, à l'époque, il y avait trois mesures qui étaient défendues par le Mauss, un revenu minimum inconditionnel, une réduction du temps de travail et un encouragement à la vie associative, en quoi ces trois mesures pouvaient s'ancrer dans le don et sa morale. Et ça m'a pris du temps. Et ces trois mesures avaient pour objectif, peut-être qu'Alain pourra nous en parler après davantage, de revitaliser la démocratie. Et j'ai mis du temps également à comprendre quel était le rapport entre la morale du don et la démocratie. Bon, pour ce qui concerne Mauss, là je vais aller très vite maintenant, Mauss est pacifiste, socialiste, associationniste et démocrate. Ces trois démocrates, socialiste, associationniste,
internationaliste.
Et internationaliste, oui. C'est vrai.
Cinq. 5.
Bon,
on
dit
5. Pacifiste, socialiste, internationaliste et associationniste, démocrate. Bon.
Cruciverbiste.
Cruciverbiste. Et plein d'autres ismes. Alors, pacifiste. Alors, son pacifisme, il faut s'ancrer sur la morale du don. La morale du don, c'est une morale qui... le don est l'opérateur, c'est comme ça qu'il présente, de la transformation des ennemis en amis. Donc, quoi bien, c'est le convertisseur de la mort en vie, de la guerre à la paix, c'est comme ça qu'il présente. On voit bien que dans le don, il y a quelque chose qui valorise la vie sur la mort. Ceci dit, même si ça a l'air banal comme proposition, c'est le point qui m'a posé le plus problème, mais je ne veux pas insister. Son socialisme peut s'ancrer dans la morale du don, dans la mesure où le don manifeste une morale de la générosité, qui n'est pas une générosité de la charité chrétienne, qui est une générosité empreinte de rivalité. Bon, bah, le socialisme, c'est une invitation, pour moi, c'est une invitation à la générosité. On peut s'ancrer sur cette morale du don. Socialisme associationniste, pourquoi ? Parce qu'il trouve qu'il voit dans les mouvements de coopération, dans les coopératives de consommation, plus que de production, le terreau de l'affirmation de du don et de sa morale. Voilà. Enfin, un démocrate, sa défense de la démocratie, on l'aperçoit très bien dans ses écrits politiques où il critique le bolchevisme. Et donc la possibilité de fonder une société nouvelle sur la violence, pour lui c'est une erreur anthropologique, sur la violence on ne peut rien fonder, on ne peut fonder qu'une chose que sur le don. Et cette défense de la démocratie s'ancre dans la morale du don, que l'on perçoit très explicitement dans la conclusion de son essai sur le don, où il dit que, où il tire comme maxime de tout ce qui précède, que, où il dit que dans le don, les hommes manifestent qu'ils savent s'opposer sans se massacrer. Et savoir s'opposer sans se massacrer, pour moi, c'est tout simplement la manifestation d'un éthos démocratique. Donc voilà en quoi son pacifisme, son socialisme et sa défense de la démocratie peuvent s'étayer sur la morale du don.
Sylvain, merci beaucoup. C'était un tour de force absolu. Tu as réussi. Non, mais c'est évident, tu as réussi à synthétiser, à axiomatiser tout un ensemble de choses. Si on voulait le discuter, il faudrait une semaine entière. C'est un aspect de la pensée de Mauss qu'on n'a absolument pas abordé pendant cette semaine. Enfin, c'est tout le rapport à la tradition positiviste, cette tentative de fonder une morale, une politique sur une science. C'est quand même ça, la tradition positiviste. Ce n'est pas du tout l'épistémologie dominante aujourd'hui. C'est celle à laquelle on croit d'une certaine manière. Ça mériterait évidemment énormément de discussions. Je crois que tu as lancé toutes les pistes. Bon, j'imagine qu'on va en discuter maintenant parce que ça serait trop de questions à la fois. Et je crois qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental dans ce que tu as dit. Enfin, tout est fondamental, mais il y a quelque chose qui est vraiment... Sur quoi tu as insisté un petit peu au début et qui n'est jamais perçu. Et je crois que c'est vraiment essentiel. C'est que les sciences sociales sont en fait toujours normatives. Même si elles passent leur temps à prétendre à la neutralité axiologique, mais il y a une science sociale qui est particulièrement normative, c'est la science économique. Et tout notre monde actuel est façonné par une science sociale, qui est cette science économique qui se prétend totalement neutre axiologiquement, qui prétend n'énoncer aucune valeur et simplement des jugements de rationalité. Or, c'est la science la plus normative. C'est la science la plus normative dans ses effets, puisqu'effectivement, toute la politique, fondamentalement, est une politique économique. Mais on pourrait montrer qu'elle est intégralement normative dans sa structuration interne. Et ça, c'est encore un autre débat épistémologique compliqué. Mais de tout ceci, je crois qu'on peut déduire une conclusion fondamentale, c'est celle-là à laquelle tu voulais nous conduire, c'est qu'il faut absolument que les autres sciences sociales que la science économique, la sociologie, l'anthropologie, assument radicalement leurs applications normatives, leurs dimensions proprement éthiques et politiques. Sans ça, on laisse absolument tout le champ à la science économique. Et il ne faut pas s'étonner qu'elle triomphe partout. Alors maintenant, à partir de ça, je voudrais enchaîner sur l'objet principal de cette soirée, qui est un objet qui porte non pas tellement sur une philosophie politique maussienne, ça serait un intermédiaire entre ce que tu viens de dire et ce que je vais développer, mais sur des implications politiques un peu concrètes. Est-ce qu'il y a un programme politique du Mauss? Bon, tu l'as rappelé, on peut le rappeler plus en détail, que Mauss a été socialiste, donc engagé dans la politique, et même dans la politique politicienne d'une certaine manière, il était compagnon de route de Jaurès, le champion du socialisme associatif, il est resté le grand ami de Léon Blum, donc de toute cette tradition politique française. Est-ce qu'il y a des propositions politiques? Est-ce qu'on peut traduire cette vision socialiste, coopérativiste, associationniste, humaniste, maussienne, est-ce qu'on peut la traduire en proposition un peu concrète aujourd'hui, actualisée? Alors, je voudrais, pour lancer la discussion, procéder en deux temps. D'abord, rappeler, vous apprendre ce que le Mauss a fait dans ce registre-là, dans le registre de propositions politiques depuis sa création. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de présenter certains thèmes qui sont repris dans le livre De Gaulle avec un point d'interrogation, qui est exposé, que j'ai coordonné avec Roger Su et auquel ont participé certains membres du séminaire ici. De gauche, point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire d'être gauche aujourd'hui? Comme disait Stephen Hughes en anglais, what is left? What is left of the left? Qu'est-ce qui reste de la gauche? Et qu'est-ce qui peut rester? Pardon?
Sorry. It's the new leftover.
Game over. C'est plutôt une hypothèse.
What is left of the left? En anglais.
Ça va pas en anglais?
Leftover.
La reste, les restes.
Les restes. C'est nous leftes, notre
politique. Bon, vous m'expliquerez.
Comme la droite dans le plan principal aujourd'hui, c'était fait des restes.
Merci.
Bon, je vous laisse pas.
Je vais vous abuser.
Bon, donc, effectivement, la revue du Mauss, puisqu'elle considère qu'il faut à la fois développer le versant scientifique et le versant éthique-politique, prendre ses responsabilités éthiques et politiques. Prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire adhérer à un parti déterminé, mais concevoir la science sociale comme un moment de la dynamique démocratique. Et un moment constitutif de la dynamique démocratique. Alors, dans ce sillage-là, il y a plusieurs prises de position politique qui sont intervenus. Au tout début, de manière un petit peu vague, j'ai fait allusion tout à l'heure, le premier grand combat théorique là, du Mauss, sans implication pratique très, très nette, ça a été un combat contre l'occidentalisme. Notre ami Serge Latouche, par exemple, a publié un livre qui s'appelle « L'occidentalisation du monde », et je le rappelais tout à l'heure, contre la tradition marxiste dominante, l'idée centrale, c'était qu'il ne s'agit pas seulement, et pas principalement, de combattre l'impérialisme économique, mais de combattre l'impérialisme, l'hégémonie des valeurs occidentales et des valeurs utilitaristes occidentales, d'une certaine façon. Mais tout ceci n'a pas eu d'implication programmatique très, très déterminée. En revanche, nous nous sommes lancés dans un débat plus politique à partir des années, je crois, que je ne dis pas de bêtises, 87, je crois, en introduisant en France le débat sur le revenu minimum inconditionnel. Ce débat, qui a des antécédents historiques, était revenu en Europe, notamment via la Belgique, sous la plume de Philippe von Parisch, dans un article qui s'appelait « Directement du capitalisme au communisme », à travers l'idée d'un revenu minimum inconditionnel. Nous avons été les premiers à relancer la discussion sur cette thématique-là, et très vite après, il n'y a pas de rapport de cause à effet immédiat, mais très vite après, le premier ministre socialiste à l'époque était Michel Rocard, et il a créé en France le revenu minimum, ce qui s'appelait le revenu minimum d'insertion. Donc toute personne qui n'a pas de ressources doit recevoir inconditionnellement un certain revenu. Alors, inconditionnellement, il y a eu des grands débats, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un principe inconditionnel de revenu minimum, mais est-ce que le revenu minimum doit être donné inconditionnellement? Est-ce que ça doit être le universal grant, donné à tout le monde, riche ou pauvre, jeune ou vieux? Là, il y a des débats techniques. Ou est-ce qu'il doit être un revenu, comme vous dites en anglais, means-tested, proportionnel au revenu des... Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'était le débat. Mais très vite après, la gauche avait perdu le pouvoir, le chômage commençait à se répandre considérablement. Le revenu minimum a été créé en 1989, à une époque où le chômage était quelque chose tout à fait marginal. on avait l'impression que c'était un accident d'histoire, que la norme, c'était le plein emploi pour tout le monde. Il y avait quelques chômeurs, on allait leur donner le revenu minimum. Quelques années après, le tableau avait changé totalement. On arrivait aux 8, 9, 10% de chômeurs dans la population active, et on s'apercevait que le chômage n'était pas un phénomène conjoncturel, mais structurel. Et c'est à cette époque, en 1995, que le MOS a pris l'initiative de lancer une sorte d'appel pour réunir des auteurs, philosophes, sociologues, économistes, de bords assez variés, allant de l'extrême gauche au centre gauche, disons, sur l'idée suivante. L'idée suivante, c'est que on ne peut pas remédier au chômage ni par les politiques néolibérales de dérégulation générale, ni par les politiques d'économie administrée, en remplaçant les chômeurs par des fonctionnaires, fondamentalement. Si on ne peut pas tout miser sur le marché, ni tout miser sur l'État, qu'est-ce qui reste comme solution ? Il reste comme solution la société elle-même. La société elle-même, en tant qu'elle est représentée par la dynamique des associations, de la société civile, c'est les thèmes qu'on a évoqués ces derniers temps. Et du coup, on a réussi à rassembler des gens très, très divers, par exemple Robert Castel en France, Anthony Negri à l'extrême gauche, Alain Littès, j'hésite à dire les noms parce que tout n'est pas connu en Angleterre, André Gortz, ou vraiment des gens très connus. Une centaine de personnes, j'abrège d'abord en France, et puis après un petit peu en Europe, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, Klaus Hofer en Allemagne, Vatimo en Italie, Robin Blackburn en Angleterre. On a réuni tous ces gens sur trois propositions, sur la combinaison de trois propositions, sur l'idée que pour remédier au chômage, il fallait premièrement, Sylvain l'a rappelé, il fallait premièrement reconnaître qu'il n'y aurait pas assez d'emplois salariés à plein temps pour tout le monde, toute la vie. Ça, c'était le compromis fordiste qui s'arrêtait, et que donc il fallait mener une politique active de redistribution des emplois basée sur une diminution du temps de travail volontaire. Deuxième série de mesures, le grand pari qu'on va retrouver. Il faut faire confiance à la société civile associationniste. C'est avec les initiatives des associations qu'on peut trouver de nouveaux moyens de satisfaire des besoins qui ne peuvent plus être satisfaits ni par le marché ni par l'État. Donc, mener une politique d'encouragement systématique de la dynamique et de l'autonomie des associations. Et puis, troisième mesure, la création d'un revenu. Le revenu minimum était déjà créé, il existait déjà, mais ce que l'on demandait, c'était qu'il devienne irrévocable. Irrévocable, car le revenu minimum tel qu'il avait été créé restait géré de manière très bureaucratique, dans une fiction contractualiste, avec l'idée que les pauvres, les chômeurs, devaient s'engager par contrat à tout faire pour redevenir des travailleurs méritants, des petits travailleurs infatigables, comme on disait à l'époque, et que s'ils n'étaient pas sages, on allait leur supprimer le revenu minimum. Donc c'était une politique de contrôle bureaucratique, d'intimidation des chômeurs, à mon avis, totalement contre-productive. Nous demandions donc, et tous ces auteurs très variés, encore une fois, d'Anthony Negri à Jean-Louis Lavigne, par exemple, qui était là l'autre jour, du point de vue de l'économie solidaire, on demandait donc que ce revenu minimum soit rendu irrévocable, c'est-à-dire on ne laisse pas planer la menace sur les pauvres qu'il soit supprimé, premièrement, et deuxièmement, on demandait qu'il soit cumulable avec d'autres ressources. Car un autre paradoxe dangereux de ces politiques de welfare, de revenu minimum, c'est que lorsque les chômeurs, les pauvres qui avaient ce revenu minimum, s'ils retrouvaient un emploi partiel, c'est-à-dire 10 heures, 20 heures, 30 heures, ce qu'ils gagnaient dans le travail à temps partiel était retranché du revenu minimum. Donc aucune incitation à travailler. Et il fallait donc, pour dépasser ce blocage, rendre le revenu minimum cumulable structurellement avec d'autres ressources. Je ne veux pas être trop long. Ces propositions ont quand même rassemblé pas mal de personnes en France dans les années 1995-96. Il y a eu pas mal de débats politiques. Et quand la gauche française est revenue au pouvoir par hasard, Chirac avait provoqué des élections anticipées, personne ne s'y attendait. tout le monde pensait que la gauche allait perdre, à commencer par la gauche elle-même, les leaders de la... C'est bon, ça ? Excusez-moi. Je crois que j'étais sûr de l'avoir arrêté. Les leaders de la gauche elle-même, 15 jours avant les élections législatives, qui avaient amené une majorité de gauche, disaient de toute façon, on est foutu, tous les sondages nous donnent perdants, bon, il n'y a rien à faire. La gauche est arrivée au pouvoir, ce n'est plus la gauche plurielle, l'alliance socialiste, communiste, radicaux de gauche, sans aucun programme. Aucune idée, vous allez faire. Et ils ont repris fondamentalement les trois mesures que je viens de présenter, simplement dans une vision totalement bureaucratique, étatiste, qui devait mener, à mon avis, à l'échec. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le... Bon, ça a mené à l'échec d'ailleurs, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Autre combat politique du MOS, enfin de certains membres du MOS, pas de moi en l'occurrence, certains animateurs du MOS, notamment mon ami ennemi intime Serge Latouche, qu'on appelle l'antipape du MOS, est devenu depuis une dizaine d'années le leader en France, le principal, le pape, de ce qu'on appelle le courant de la décroissance. Alors voilà un autre projet politique, l'idée que de toute façon, même l'idée d'un développement durable est absolument intenable, que par hypothèse, le développement ne peut pas être durable. On ne peut pas projeter d'accroître sans arrêt la production et de s'imaginer qu'on va préserver la planète, préserver les équilibres sociaux fondamentaux. Il faut donc aller en direction d'une décroissance. Ce projet est sorti en partie des rangs du MOS. Pour Serge Latouche, l'anti-utilitarisme mène nécessairement à la décroissance. Ce n'est pas l'avis de la majorité des Mossiens, mais enfin, c'est une des implications politiques possibles du courant. J'arrête pas de l'éteindre, je suis absolument désolé, mais je sais pas. J'ai l'impression d'être dans un film des Marx Brothers, avec la radio, quoi. On tape dessus, puis elle s'éteint jamais. Désolé. Dernière action politique du MOS, politique un peu concrète, nous avons pris l'initiative il y a 2 mois de lancer un manifeste pour la refondation de l'université. Ça, c'est lié au dernier numéro du MOS sur la crise et la mort de l'université. Qu'est-ce que l'on peut dire de ça? Il s'agit fondamentalement de sauver le soubassement, l'imaginaire anti-utilitariste de la vie universitaire. Ce refus de réduire le rapport au savoir à des seuls intérêts de marchandisation ou de professionnalisation. Il s'agit de redonner une dynamique à la communauté des universitaires, à l'autonomie de la communauté universitaire. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que les universitaires peuvent se mettre d'accord suffisamment sur l'essentiel des valeurs universitaires de façon à pouvoir s'opposer à toutes les politiques de bureaucratisation, d'évaluation quantitative, de bibliométrie, d'enrégimentement de la vie universitaire? C'est ça la question qui est posée. Dans l'appel que nous avons rédigé, nous avons obtenu très vite, quasiment en une semaine, 5000 signatures d'universitaires en France. Et ce manifeste réunit quand même des gens qui sont représentatifs de 3 grands courants de pensée au sein de l'université, soit les représentants de l'université traditionnelle avec une vision hiérarchique mandarinale du savoir, les réformateurs un peu technocratiques, de gauche technocratique, mais qui s'opposent, qui ont été un moment favorables aux politiques de réforme de Sarkozy, gouvernement Sarkozy, mais qui maintenant s'aperçoivent que c'est une tromperie complètement et qui donc commencent à s'opposer. Et puis, j'allais dire la gauche, non, il faut dire la gauche de gauche, car un des grands paradoxes de cette affaire, et je crois que c'est au cœur de nos débats, c'est que les principaux initiateurs des réformes universitaires, c'est la gauche. C'est notamment en France la gauche socialiste. Les principaux théoriciens de toute la réforme des universités, ça a été en France Jacques Attali, l'ancien conseiller de François Mitterrand, et Claude Allègre, l'ancien ministre de Jospin. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que tous ces débats sont très très compliqués et posent la question, ça va servir de transition, what is left? Où est la gauche? De gauche, point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors, quelques mots très rapides sur ce point-là pour lancer la discussion. Dans le livre qui est présenté dans le bureau, nous avons réuni une trentaine d'auteurs autour de pour organiser une discussion de la manière suivante. On a pris une trentaine de notions, par exemple association, associationnisme, c'est Philippe qui a écrit le chapitre, qui d'ailleurs est remarquable et qui a fait beaucoup de bruit sur l'associationnisme. Ouais, c'est vrai, il faut le dire. Associationnisme, libéralisme, république, marché, capitalisme. Une question posée à tous les auteurs. Comment est-ce que la gauche a pensé ces notions au début? Comment est-ce que la gauche ou les gauches ont pensé ces notions au début, fin 18e, début 19e siècle? Comment est-ce qu'elles ont évolué sur ces questions? C'est bien que la gauche a été tantôt nationaliste, tantôt antinationaliste, tantôt colonialiste, tantôt anticolonialiste, etc. Comment ça a changé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis quatrième question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'était la troisième question. Et puis quatrième question, où faudrait-il aller? Bien. Mais tout ceci suppose une discussion plus générale sur l'idée même de gauche. Quelques mots là-dessus. What is that? Qu'est-ce que c'est que la gauche? Alors, je vous épargne la discussion historique, pourtant très intéressante, si on la regarde un petit peu dans le détail. Mais on ne va pas faire ça en un mot, ici quand même, parce que nous sommes là avec des anthropologues. En un mot, l'idée reçue que l'opposition droite-gauche naît avec la Révolution française, lors de la Constituante en 1989, où dit-on spontanément les représentants du clergé de la noblesse vont s'asseoir à droite du président de l'Assemblée et les représentants du tiers-État à gauche du président de l'Assemblée. Cette interprétation conventionnelle, à mon avis, est en partie fausse. En partie fausse, car si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les pôles de la gauche et de la droite sont déjà significatifs. Que c'est parce qu'on sait déjà ce que ça veut dire être de gauche ou de droite qu'on se répartit de cette manière-là. Ça, on peut le montrer, je n'en ferai pas dans les détails. Et ça renvoie à une discussion beaucoup plus fondamentale, qui est celle de Robert Herz, sur un débat que connaît particulièrement bien Nick Allen, sur l'universalité, une certaine universalité de l'opposition de la droite et de la gauche, de la main droite et de la main gauche. Bon, vaste débat anthropologique, historique, etc. Mais ne le développons pas, restons-en au débat proprement politique. Que signifie la gauche dans le champ de la politique moderne telle qu'elle s'est développée depuis deux siècles? Puisqu'on sait que toutes les propositions ont pu être soutenues par la gauche. Raciste, antiraciste, pour la religion, contre la religion, colonialiste, anticolonialiste, antisémite, philosémite, etc. etc., etc. Apparemment, il n'y a qu'un critère qui tient. C'est le critère développé par Norberto Bobbio dans son livre sur la gauche et qui est très séduisant au départ. Bobbio dit en effet que n'importe quelle position peut être soutenue à droite ou à gauche, mais que à un moment donné du débat politique, dans un pays particulier, les gens qui se classent à gauche sont toujours plus favorables à l'égalité que ceux qui se classent à droite. Ils sont peut-être moins favorables à l'égalité que des gens de droite 50 ans avant, mais à un moment donné, ils sont toujours plus favorables à l'égalité que ceux qui se classent à droite. C'est un critère purement ordinal. Voilà, première grande séparation, droite-gauche, c'est le rapport à l'égalité. Et puis, une fois qu'on a posé ce premier critère, après intervient un second critère, le rapport à la liberté individuelle ou à l'autorité, qui permet de distinguer entre une droite autoritaire ou une droite libérale, d'une part, une gauche autoritaire, stalinienne, marxiste, léniniste, ou une gauche non autoritaire, d'autre part. Bon. Tout ça est apparemment satisfaisant, mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en tout cas, il faut expliquer le déclin de l'opposition de la droite et de la gauche. Qu'est-ce qui fait que ce critère de Bobbio ne suffit pas à expliquer ce déclin du jeu politique structuré par l'opposition droite-gauche? Bien, je crois qu'à cette question, la réponse est la suivante, et il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est que nous avons connu depuis 20 ou 30 ans tout un ensemble d'évolutions qui rendent l'opposition plus complexe que ce qu'avait dit Bobbio. Et puis par ailleurs, si on y réfléchit bien, cette caractérisation très séduisante de la droite et de la gauche est intrinsèquement insuffisante. Quelles évolutions depuis une vingtaine d'années? je ne l'ai plus très bien en tête, je donne des têtes de chapitres, je les cite en vrac. Première évolution, bien sûr, la disparition des socialismes réels, toute la disparition du marxisme à l'Est. Premier facteur d'affaiblissement de l'opposition droite-gauche. De même, deuxième évolution, la disparition presque complète des composantes autoritaires de la gauche. Toute la vieille tradition communiste autoritaire complètement disparue, c'est un peu dit. Il n'y a plus que des franges de gauche libérale, en quelque sorte, non autoritaire. Troisième grande évolution fondamentale, la substitution massive des luttes de reconnaissance aux luttes de redistribution. Jusqu'à il y a 20-30 ans, on se battait principalement pour redistribuer du revenu, c'est toujours vrai bien sûr, mais ces luttes de redistribution de revenus ont été supplantées par des luttes d'identité collective, des luttes de reconnaissance identitaire, c'est ce qu'a très bien dit Paolo tout à l'heure pour le Brésil, tout le champ des études postcoloniales, subalternationnistes, tout ça, ça porte exactement là-dessus. Puis la lutte des femmes, bien sûr, pour commencer, puisque ça a été la grande matrice de la chose. Quatrièmement, à partir du moment où les luttes sociales ne sont plus d'abord des luttes de redistribution, mais des luttes de reconnaissance, eh bien, il en résulte presque automatiquement qu'elles se fragmentent. Qu'elles se fragmentent, puisqu'on veut faire reconnaître non pas la communauté des exploités, mais la singularité des identités collectives. Chaque groupe veut faire reconnaître son identité singulière. Du coup, les différents luttes ne peuvent plus s'agréger. Chacun lutte pour sa singularité. Et donc le signifiant gauche ne réussit plus à subsumer, à rassembler toutes ces luttes identitaires. Corrélativement, cinquième évolution, du coup, c'est toutes les notions collectives, politiques collectives, qui sont frappées d'obsolescence. Les notions de peuple, les notions de classe, les notions de nation, etc., tout ça ne fait plus aucun sens. Très peu de sens. L'état de nation, lui aussi, se change. Et puis, dernier point, enfin, avec la mondialisation, on constate empiriquement que dans tous les pays du monde, droite et gauche, au fond, convergent pour essayer de sauver la place d'une société, d'un état-nation, au sein de la concurrence mondiale. Et on voit assez bien qu'il se produit une sorte de coalescence des valeurs de la droite et de la gauche, la droite reprenant en fait les valeurs de redistribution de la gauche, mais prétendant qu'elle a les meilleures solutions pour les appliquer que la gauche. Meilleures solutions par le marché que par l'État, mais droite et gauche essaient de produire une mobilisation générale de la société pour survivre dans la concurrence internationale. Ça, c'est les évolutions empiriques qui font que le critère simple de Bobbio, la gauche est pour l'égalité, la droite est pour moi, ne suffit pas. Et puis, si on y réfléchit par ailleurs, quant au fond, il y a quand même des choses que Bobbio ne voit pas du tout. Premièrement, il ne fait absolument rien de ce qui est en fait peut-être la valeur première de la gauche, à savoir la valeur de solidarité collective, solidarité politique. C'est une fois qu'on a affirmé qu'il faut produire une solidarité, non pas une solidarité philanthropique, mais une solidarité politique entre les exploités, les dominés, c'est après avoir dit ça qu'on commence à parler d'égalité et de liberté. Mais ça n'empêche pas par ailleurs qu'on cherche à gauche aussi la liberté individuelle. Mais, enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, on fera si vous voulez. Il y a des hiérarchies de valeurs enchevêtrées, très, très compliquées, qui dominent les unes les autres. Et puis par ailleurs, il y a une autre caractéristique de la gauche, qui est absolument fondamentale, on voit partout, c'est que la gauche, depuis l'origine, a toujours essayé de conjuguer à la fois un discours de refus de l'existant, un discours de critique radicale de ce qui existe, éventuellement jusqu'au nihilisme dans certaines variantes anarchistes ou marxistes, un discours de critique radicale, avec un optimisme radical. C'est la conjugaison d'une critique radicale, d'un pessimisme radical, qu'on voit par exemple chez Bourdieu, et puis d'un optimisme radical. Le présent, c'est vraiment pas bien, le passé, c'était pas bien, mais l'avenir, ça sera mieux. Et c'est la tension entre ce pessimisme et cet optimisme, je crois, qui a toujours, pendant deux siècles, alimenté la dynamique de la gauche. Alors, je finis maintenant là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut déduire pratiquement concrètement, de programmatique de cette analyse. Qu'est-ce qui pourrait réalimenter un projet de gauche ? Un projet de gauche, et pourquoi faudrait-il le réalimenter ? Ben, il faut le réalimenter parce que la démocratie est liée, la démocratie moderne est liée à cet affrontement de la droite et de la gauche, et c'est la gauche qui a toujours été porteuse de cette dynamique progressiste, de cette dynamique d'approfondissement de la démocratie. Et je crois que les deux choses vont de pair. Soit on renonce finalement à sauver la démocratie, à universaliser la démocratie, soit on essaye, on y croit toujours, et si on y croit toujours, il faut refonder en même temps les valeurs de la démocratie et les valeurs de la gauche. Alors, dans quelle direction ? Je dirais d'un mot finalement, mais que je vais détailler après en trois points. Je crois qu'on pourrait dire qu'au fond, ce qu'il faut renouveler, ce qu'il faut produire, c'est une radicalisation et une universalisation du projet social-démocrate. Radicalisation, universalisation du projet social-démocrate. Projet social-démocrate qui était trop étroitement confiné dans le cadre de l'État-nation, des États-nations, et c'est une échelle qui n'est plus viable, qui n'est plus suffisante. Et puis, c'est un projet qui était trop confiné, trop limité, dans le cadre d'un progressisme économiciste. Un progressisme limité à l'économie, progressisme qui pensait que le progrès allait dépendre uniquement de l'accroissement des forces productives, de l'accroissement de la richesse matérielle. Tout ça, ça ne suffit plus. Alors, quelles sont les voies d'évolution ? Ben, je pense qu'il y en a trois, fondamentalement. La première, on l'a déjà vue. Le pari premier, c'est celui, très compliqué, d'autonomisation, de redynamisation de la vie associative, de la société civile associative. Et c'est là où on retrouve le socialiste associationniste de Marcel Mauss. On a déjà parlé de tout ça. L'article de Philippe rappelle l'histoire de cet idéal associationniste. Le point fondamental, c'est le suivant, c'est que les associations ne sont pas spontanément vertueuses. Les associations ne sont pas spontanément vertueuses. Ce ne sont pas les associations empiriquement données qui vont sauver toute seule la démocratie. Leur cours naturel, c'est au fond de se laisser absorber, routinisation du charisme, pour retrouver ce que disait Alain Zibert, se laisser absorber par les contraintes marchandes d'une part, les contraintes bureaucratiques d'autre part. Et il y a donc un processus circulaire très complexe à faire, dans lequel il faut que l'État apprenne à se dessaisir d'une partie de son pouvoir, pour donner ce pouvoir aux associations, parce que c'est les associations qui, autonomisées, qui seront au fondement de la démocratisation de l'État. Pour dire autrement, il faut mener une politique d'autonomisation des associations qui ne les instrumentalise pas au service de l'État ou des partis politiques. Première orientation. Deuxième orientation, qui va de pair avec le développement à la fois des politiques de reconnaissance et puis avec la question soit du développement durable, soit de la décroissance, comme on voudra. Il faut comprendre que nous devons maintenant développer une solidarité, pas seulement avec les membres de l'État-nation, d'un État-nation, ça c'était la base de la social-démocratie, qu'il nous faut développer des solidarités avec d'autres cultures que la culture dominante de l'État-nation, problème d'une politique de reconnaissance de la diversité des cultures, reconnaître la diversité des cultures au sein de l'ancienne État-nation, et puis de la diversité des cultures entre les différents États-nations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Probablement reconnaître que chaque culture a donné quelque chose à l'humanité, c'est la reconnaissance d'un don, qui peut encore donner quelque chose à l'humanité. Le point important à comprendre, je crois, c'est que nous sommes maintenant obligés de mener une politique, en quelque sorte, de développement durable des cultures, aussi bien que de développement durable de l'économie. Développement durable des cultures, il faut sauver quelque chose des cultures passées, de même qu'il faut sauver quelque chose de la nature que nous avons hérité. C'est un don qui nous est fait, ce don des cultures passées. On ne peut plus considérer que le progrès consiste simplement à liquider les cultures existantes. Il faut sauver quelque chose de l'ordre des cultures sans les fétichiser, sans les réifier. Et puis de même, bien sûr, il faut sauver quelque chose de la nature, il faut éviter les irréversibilités de l'ordre naturel. Troisième et dernier point, j'arrive à ma conclusion. Le problème, c'est bien sûr le suivant. Dire il faut faire ceci, il faut cela, c'est facile à dire. Le problème, qui le fera ? Qui le fera ? Quel peut être le sujet collectif d'une action politique ? On a déjà parlé de ça. Où est le politique aujourd'hui ? Ma conviction, je crois que celle de Sylvain aussi, et d'un certain nombre d'amis du MOS, c'est que nous ne pourrons pas avancer aussi longtemps qu'il ne se reformera pas un consensus universalisable à différents pays du monde, différentes cultures du monde, sur quelques valeurs élémentaires. L'action politique, jusqu'à présent, a été liée à l'existence de grands discours, de grands récits, comme on disait avant le postmodernisme, le grand récit marxiste, le grand récit socialiste, etc., etc. Nous n'avons plus de grands récits qui permettent de rassembler des luttes à travers le monde. Alors, on peut faire semblant de dire que c'est bien, que tout va être résolu, tous les problèmes, par une politique en réseau, qu'il n'y aura que des réseaux, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Les forums sociaux, le mouvement intermondialiste se dissout dans ces réseaux. C'est sympathique, mais ça ne produit pas la définition des contours d'un monde nouveau. Quelles sont les valeurs universalisables que pourraient reconnaître les... qui je m'arrête dans deux minutes, mais sois gentil, regarde pas ta montre tous les cinq secondes parce que c'est un peu décourageant. quelles sont les valeurs universalisables qui pourraient nous réunir rapidement? Ben, je ne vais pas les détailler, il y en a quelques-unes, mais à mon avis, elles convergent toutes vers une valeur centrale. Une valeur centrale, et qui est la lutte contre, ben, c'est la vieille valeur des Grecs, qui est la lutte contre ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, la lutte contre l'illimitation. Et au fond, je ne vais pas détailler, mais si on prenait toutes les valeurs possibles et imaginables, en les creusant, en les axiomatisant, je crois qu'elles renvoient toutes à cette valeur première. Comment lutter contre l'illimitation ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, et là je termine vraiment pour de bon, qu'est-ce que ça implique concrètement ? 36 000 choses affreusement compliquées, j'en sais rien du tout. Mais il me semble qu'un mot d'ordre concret, facilement intelligible, qui permet de traduire ce désir de lutter contre les limitations, et là on rejoint certaines des initiatives anciennes du MOS, le mot d'ordre concret, c'est qu'il faut, dans tous les pays du monde, après on peut entrer dans le détail, dans tous les pays du monde, affirmer la nécessité inconditionnelle d'un revenu minimum. Pour le dire autrement, affirmer la nécessité qu'aucun être humain ne doit tomber en dessous d'un certain niveau de ressources. Voilà. Ça, c'est l'impératif politique catégorique premier. Aucun État ne peut être considéré comme légitime s'il n'assure pas ce niveau de ressources minimum. Première considération. Et puis, symétriquement, si on veut vraiment lutter contre les limitations, et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire entendre, il faut instaurer un niveau de revenu maximum. Politique de revenu maximum. Affirmer qu'il y a des limites. C'est pas que l'inégalité est légitime. Le désir d'enrichissement est légitime. Mais il y a des limites à l'enrichissement individuel qui, si elles sont franchies, menacent directement le projet démocratique. Ben voilà, je peux m'arrêter.
C'est les questions ?
Ah ben oui, on va faire ça.
Moi, je voudrais savoir ce que tu fais du religieux et de la... Enfin, il y a une chose qui me... Je suis très admiratif de ce que tu dis et je suis à fond avec toi. Et je voudrais pas que ce que je dis soit pris comme une critique directe. C'est plutôt une extension plutôt qu'une critique directe. Mais je m'interroge énormément sur la version franco-française que tu présentes du tableau et des solutions. Pour moi, qui habite en Grande-Bretagne et qui a appris à avoir une vision plus globale des choses, pour moi, c'est les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne. Et je sais à quel point la façon dont les gens se rapportent aux valeurs, c'est un rapport individuel. C'est pas un rapport collectif. Le collectif, ils n'ont rien à faire, les Britanniques. Et évidemment, il y a une autorité qui réunit, qui forme un collectif, le rapport à la reine, à Diana, des choses comme ça. Mais si tu veux proposer un programme politique, c'est autre chose. C'est un autre langage que tu dois tenir. Et à mon avis, enfin, je sais pas, je soupçonne que c'est la religion qui intervient. On sait bien combien le religieux est important aux États-Unis. Il a sa place en Grande-Bretagne. En tout cas, la seule chose qui est fédératrice, c'est l'Église. Bon, il y a tout un tas d'églises, il y a tout un tas de confessions. Et c'est certainement là que les gens retrouvent le collectif. Le dimanche, c'est le seul lieu de réunion. Et on entend le prêche du prêtre ou du pasteur. Donc je me demande, au niveau de tes valeurs, si tu intègres ça, et je voudrais, pour ne pas être trop long, te demander, généraliser la question, te demander si le projet politique, puisque tu as prononcé le mot d'éthique au départ, si le projet politique n'est pas aussi un projet de sagesse. Dans quelle mesure il s'applique aussi à ceux qui essayent de promouvoir le projet politique. Je ne doute pas, de ça à ton niveau, mais à partir du moment où il s'agit de répandre le mot d'ordre, comment fait-on pour partager ce projet qui implique aussi une éthique de vie et évidemment une étiquette?
Oui, on peut écouter des gens d'abord. On ne va pas répondre à tout de suite.
Comme tu veux, Peter.
Can I just say just something briefly? I think it's a very... Sorry, I have to speak in English because it's simple, but it's rather serious, I believe. I mean, it's a textbook thing. To act politically, we've got to be historically conscious. But I don't want to pose any problem, but I see the same problem over and over again in this sort of conversation that to do with your historical narrative of left and right. You know, I remember when I read Anthony Giddings' Beyond Left and Right. It's fine. But the problem is, if you're going to confine this discourse in European history, that's fine. But we know very well that the confrontation between left and right, you mentioned Noel Bobbio, but beyond Europe, modern Europe, after the Second World War, the political history of left and right was, the relation between left and right was not parliamentary questions, it's not really academic debate, it's not what Bobbio calls correlative positions. In large part of the world, left and right was, what's the word? It's a politics that denies the hegemon deck of the other position. So it's not really correlations. The core survival of left and right is very unique in the second half of European history. If you look at East Asia, Southeast Asia, Latin America, and large parts of Africa, immense violence took place because of the imposition of this bifurcated political position. I mean, if we understand political history of left and right in such a way you presented, and which resonates very well with how these left and right questions were understood in the 1990s, unless we advance from that understanding, very parochial understanding of left and right, I don't see how we can think about politics in global terms. I mean, that's my point.
Okay. Yeah. Je voudrais bien commencer à répondre un petit peu, parce que je trouve qu'on a déjà des discussions, des débats tout à fait fondamentaux.
Oui, je suis à la fois tout à fait d'accord, un petit peu moins quand même. Je pense malgré tout que l'opposition droite-gauche a été un peu moins parochial, que tu le dis. Elle a quand même, en Amérique latine notamment, elle est quand même très très massive. Elle a été très importante à certaines époques. C'est vrai qu'elle est en train de décliner et qu'elle ne sert plus actuellement à organiser les luttes au niveau mondial. C'est sur le déclin. Donc ça, effectivement, première question, est-ce qu'on peut universaliser les valeurs qui ont été portées par la gauche sous l'étiquette, sous le signifiant gauche aujourd'hui? J'en sais rien du tout, c'est pas du tout évident pour les raisons que tu viens de dire. Je crois qu'on sera d'accord. Et qui renvoie à la question que tu posais. Quelle est la place du religieux dans cette affaire-là? Alors, tu as tout à fait raison de dire que les formulations sont très largement franco-françaises. Alors, notamment, mais personnellement, je pense que le politique est indissociable du religieux. C'est un débat que j'ai avec Marcel Gaucher. C'est un débat post-moussien, d'une certaine façon. La conviction de Gaucher, c'est que, je cite le débat, c'est qu'il n'y a pas de politico-religieux. C'est que, historiquement,
le politique et le religieux ont toujours été mêlés, mais que ce n'est pas un rapport essentiel, et que le triomphe de la démocratie doit passer par la privatisation du religieux et l'autonomisation du politique. Bon, personnellement, je pense qu'il a tort. Je pense que la définition du rapport entre les sujets humains, qui est le politique, est indissociable du rapport avec ce que j'appelle les entités invisibles, qui est le religieux. Bien. Et qu'il faut donc tenir les deux en même temps. Alors après, concrètement, comment est-ce qu'on lit un projet politique, et ça renvoie à la question de Yannick, avec le respect des traditions religieuses? Moi, je vois les choses de la manière suivante. Je pense qu'on peut montrer, enfin qu'on peut soutenir en tout cas l'idée que l'idéal démocratique moderne s'est développé dans la suite des grandes religions, qu'il est la forme moderne de l'esprit du don, dans laquelle on ne donne plus à une entité en surplomb, à un dieu, une entité hétéronome, ou externe au rapport social, mais on donne à la démocratie elle-même. Je crois que c'est ça le soubassement de la démocratie moderne. La forme achevée de l'esprit du don, tel qu'il s'est développé à travers les différents siècles. Bien, c'est dans ce travail de transformation de l'esprit du don initial par les grandes religions, ce travail de spiritualisation de l'esprit du don par les grandes sagesses et philosophiques.
Well, Anna, I want to know if you plan to do all the talking. I mean, we've been here an hour already.
Bon, on peut arrêter la séance tout de suite si tu préfères. Pas de
problème.
I thought we were coming here for an informal political discussion.
All right.
Non, mais si je ne peux pas répondre aux questions, je ne réponds pas.
I think it's quite necessary that Alain answers our questions, and I think he's going to stop in a minute in order to let other people talk and ask questions. I think you should finish.
Merci. Pardon. Bien. C'est un peu difficile de reprendre ses idées. Ah, ben c'est bien. C'est bien. Mais attends, je n'ai pas fini quand même. Puisque lui, il veut que je finisse, qu'il ne veut pas que je finisse, mais lui veut que je finisse. Alors je suis un peu embarrassé. Et je voudrais quand même dire quelque chose, effectivement. Je pense que les valeurs démocratiques doivent être comprises comme une certaine forme d'aboutissement des valeurs développées par les grandes religions, les éthiques religieuses ou les grandes sagesses. La question qui se pose, j'en viens aux choses un petit peu plus concrètes, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire coexister ces différents systèmes axiologiques, ces différents systèmes de valeurs. Alors, les religions le font. Par exemple, disent, nous convergeons tous sur la règle d'or. Alors, il y a des théologiens, Hans Küng, qui organise des rencontres entre les grandes religions, tradition catholique, protestante, bouddhiste, islamique, machin, etc. Truc bizarre, c'est qu'il n'invite pas les sciences sociales, il n'invite pas les laïcs. Il réserve la discussion entre les religions au sein des religions. Tu vois, c'est la réaction inverse à ce que tu dis. Tu vois. Je pense que c'est ce qu'il faut dépasser et qu'il faut chercher quels sont les fondements axiologiques communs à la fois aux grandes religions et aux traditions des sciences sociales et à la modernité laïque et démocratique. Paolo,
je voudrais te proposer de faire une réflexion sur les sciences sociales, parce qu'en fait ça concerne nous tous ici, en particulier cette dimension normative des sciences sociales par rapport aux politiques, la démocratie. Un jour, tu as déjà proposé, ça fait longtemps, la substitution de la science sociale par une philosophie politique normative. Alors je te pose cette question pour cette réflexion, pour actualiser un peu cette réflexion, depuis ça fait 10 ans déjà, ça fait déjà longtemps, pour actualiser cette réflexion dans le sens ça, comment on devrait penser une philosophie politique normative. On devrait penser au approfondissement de ces schémas disciplinaires, anthropologie, sociologie, sciences politiques, tout ça, sur la par rapport à la démocratie ou politique, un peu, faire un peu le bilan de cette solution.
En un mot, pour aller très vite, je pense que les sciences sociales sont nécessairement axiologiques, c'est-à-dire qu'elles ont un rapport aux valeurs, qu'il n'y a pas de discours purement axiologiquement neutre en sciences sociales, que c'est une illusion, et qu'elles n'avanceront que si elles deviennent conscientes de leur normativité, c'est-à-dire des propositions, des jugements de valeur qu'elles profèrent. L'exemple parfait, c'est exactement ce que disait Sylvain,
la science économique se croit neutre d'un point de vue axiologique, elle est totalement axiologique. Elle passe son temps à proférer des jugements de valeur. Voilà. Bien, si on veut un progrès de la connaissance scientifique, de la connaissance positive, il nous faut un progrès de la connaissance normative. Voilà, c'est, je crois, c'est... Sylvie, tu les...
Je voudrais revenir sur cette question de l'illimitation. Parce que moi, il me semble que l'illimitation, c'est l'illimitation d'acquisition de biens, voilà, c'est un certain nombre de choses, mais en même temps, ça signifie une limitation de la considération des êtres humains à seulement une partie de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la satisfaction de ce qui se situe au niveau des sens. Je ne vais même pas parler de besoin. Et que, donc, c'est plutôt, je dirais plutôt, pour comprendre, enfin, pour voir quelle valeur, en dehors de la valeur de la solidarité, tu as dit, qui peut très bien se traduire, par exemple, par l'exigence d'un revenu minimal pour tous, enfin, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, le fait de considérer les êtres humains et même enfin, les sociétés, le collectif, que dans une seule de ces dimensions, et de perdre la dimension de la conscience, et justement est une limitation. Donc moi je parlerais plutôt de lutte contre la limitation, parce que ce qui est à défendre derrière ça, c'est donc aller vers une conscientisation, une autonomisation de l'être humain. C'était les valeurs d'ailleurs de l'éducation populaire, mais qui s'est complètement, enfin, qui a pris le chemin de traverse, en fait, qui s'est fourvoyé dans la fourniture de services, hein, on n'est plus du tout dans la recherche ou l'accompagnement vers l'autonomie. Et que si on n'arrive pas à se poser cette question-là, c'est difficile de traduire comment, par quel projet politique on peut aller. Et je pense autant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, d'ailleurs.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, si je te comprends bien. Ça peut être interprété dans les termes de ce que disait Irène Théry tout à l'heure. L'institution n'est pas ce qui interdit, ce qui oblige, c'est ce qui rend, c'est ce qui ouvre des possibles. Voilà. Et effectivement, c'est sûrement le défaut de ma proposition. Si on parle seulement de lutter contre l'illimitation, ça donne l'impression d'un projet totalement négatif. Et il faut montrer comment cette lutte contre l'illimitation, l'hubris, ouvre des possibles et donc permet l'autonomisation des sujets et l'accroissement de la puissance de vivre. Ça, c'est le point fondamental, pour le dire en positif. Mais ça renvoie aussi à la question que tu posais tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu, sur la limitation non pas seulement des revenus des uns et des autres, mais des volontés de pouvoir des uns et des autres. Et c'est bien évidemment le problème fondamental, mais ça, je n'ai pas de proposition concrète là-dessus. Est-ce qu'on peut traduire cette idée que tout le monde partage en proposition un petit peu déterminée? Ça, je ne sais pas. Fais ce que tu veux, qu'il prend la présidence, il s'appelait.
Mais that was the purpose of this evening, I think.
What was the purpose?
Well, that's what Alain Cayet planned.
Even if he planned it, he can't see everybody in the room at the same time.
Sur le plan de la procédure, ça serait peut-être de séparer la présidence.
Mais moi, je veux dire n'importe quoi.
Oui.
Would you like to do that, Philippe?
No, no.
I think Philippe could do it.
Okay, so who wants to speak now?
I speak English because I'm more available. I have a feeling I'm not a mosque scholar, but I want to say two things to what you said and throw it to probably not just a question to you, but it's more like a way to share a comment. I take from mosque, I don't take the creation of a universal value from what he was. To me, it's more a metaphor that is suitable for the political situation in which he was, appealing to a common universal value. But what I do take is that he was seeing a situation of radicalization, of struggle around resources. And I completely like the idea of, you know, having a minimum income or something. I was actually talking about it before. I see it as already being part of what many human rights movements are doing around the world. But anyway, what I do think, though, is that Mosque was pointing to the radicalization in the struggle for resources. And I think if we want to even think about, you know, a minimum standard of living around the world, given the conditions that are not the ones that we can live in Europe, in many other places in the world, the situation being what it is, it will mean what it meant in Europe after Mosque, which was a brutal civil war. And this is, you know, I don't agree with the idea that democracy was built peacefully. Social democracy in Europe after the Second World War was built on the bloody civil war of the Second World War. And I hope we don't get there, you know, in other places of the world. But what I think is we have to think about it directly, because it is...
We're already doing elsewhere in the world.
So,
yeah.
Just, you know...
Okay, that's all I have to say.
So, just to say that I think this is the situation we're facing. It's, of course, a very broad generalization. And I am not sure it's a matter of defining values, but at least of grasping the violence that is already present. And I am not sure, you know, defining a universal value is a way to start to breach or to avoid the violence. It was probably the truth within the intellectual and political elite of France in the 20s. So I just wanted to throw that and ask a proposal.
Deux choses. Première discussion, est-ce qu'effectivement il y a des valeurs universelles dans le don? Moi je pense que oui. Après on pourra discuter. Bien sûr, transformable historiquement. Après, je ne suis pas sûr d'avoir compris, parce qu'il y a deux choses. Première chose, est-ce qu'effectivement le mot d'ordre d'un revenu minimum est pratiquement réalisable? Et comment ça se passe? Première discussion. Deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça ne risque pas de déclencher des guerres civiles? Alors là, je n'ai pas compris pourquoi. Sans ça, est-ce que la réponse implicite, c'est qu'il vaut mieux des dictatures que des démocraties pour empêcher les guerres civiles? Ce qui est très possible. C'est ce qui s'est passé, c'est la solution de Hobbes, hein, fondamentalement. On peut le dire. Mais c'est un pari possible. C'était le pari de John Gray, par exemple, en Angleterre. La démocratie, c'est bien, mais historiquement, il vaut mieux la dictature. Bien. Moi, je pense quand même que, par exemple, en Afrique, ou un peu partout, comment dire, et on voit partout des personnages politiques qui ont une stature morale, qui se battent pour des valeurs démocratiques. Bien. Je pense que partout, il est important que des gens puissent se dresser et dire ce pouvoir, par exemple dans tel État africain, c'est pareil dans presque toute l'Afrique, n'est pas légitime parce qu'il n'assure pas ce minimum de ressources aux populations. Ça me paraît la base de la démocratie, la démocratie démocratique.
Okay. What I'm saying is, in order to reach what you claim, they might have to engage in political violence.
Bien sûr.
That's what I'm saying.
Bien sûr. Oui, oui, oui.
Okay. I was very much in sympathy with Horacio's question. I mean, as you were speaking, I'm sure we could all buy into the notion that there should be minimum entitlements for everybody in the world. How do we get that? I mean,
there are serious interests at stake, and I didn't hear anything terribly concrete about how they are to be addressed.
Nécessairement par des luttes. Nécessairement par des luttes. La politique, toutes les valeurs, toutes les conquêtes démocratiques se sont faites par la révolution, de la violence et des luttes. Mais la question préalable avant qui est des luttes, c'est savoir pourquoi on se bat. Et le problème politique actuel, c'est qu'on ne sait plus pourquoi on se bat.
Je crois que c'est l'objet de la discussion de ce soir, c'est de savoir quelles sont les valeurs principales, premières, au nom desquelles on peut essayer de rassembler les différentes luttes qui se mènent partout dans le monde.
Can I just ask a supplementary question? By struggle, but Morse is non-violent. Is this a non-violent struggle? How are the people of Burma to be involved in this struggle? It's fine. I mean, okay, you and I can go to the polls and so on.
Sylvain disait que Morse était pacifiste. Il n'a pas dit qu'il était non-violent.
C'est tout à fait différent. Donc, il y a une tentative de sauver la paix, mais si la guerre est inévitable, il faut faire la guerre et la gagner.
Jack. Tantôt, on a abordé la question religieuse. Pour moi, la question, en fait, le religieux dans la société a trait essentiellement à l'expérience de la finitude. C'est-à-dire qu'à l'expérience de la limite. Et de faire en sorte que l'expérience de cette limite-là n'accable pas. C'est-à-dire qu'elle ne ferme pas l'avenir, qu'elle ne ferme pas l'action, et qu'elle puisse devenir, c'est-à-dire que la limite s'ouvre, se réouvre en direction d'un imaginaire, d'une virtualité, et que cette virtualité-là puisse abriter des projets communs, en fait, des projets qui puissent, même pas communs, qui puissent coexister dans ce même espace de virtualité. Et en ce qui me concerne, faut dire, les monothéismes, par exemple, ont voulu unifier, c'est-à-dire qu'il y ait un seul horizon, c'est-à-dire qu'il soit commun pour toute l'humanité. Moi, je pense qu'une globalisation, un seul discours pour toute l'humanité, je pense que ça ne relève pas de la sagesse. Je pense qu'il faut un espace, c'est-à-dire à l'intérieur duquel, c'est-à-dire plusieurs discours peuvent coexister en face de la même expérience de la finitude. Or, présentement, c'est-à-dire l'expérience de la finitude globale, c'est-à-dire qui se retrouve chez pratiquement tous les peuples, c'est-à-dire c'est le problème de l'environnement, c'est-à-dire c'est la menace qui pèse désormais, c'est-à-dire sur la survie globale de l'humanité. Et moi, je pense que s'il y a une nouvelle transcendance, c'est-à-dire un nouvel horizon de transcendance qui peut réconcilier d'une certaine façon les peuples autour de la nécessité d'une sagesse, c'est celui-là. Je prends quand même notre... Monsieur?
Oui, je veux faire quelques remarques à propos et en partant de l'inégalité. Bon, d'une part, en lisant des livres sur le néolibéralisme, je dis qu'il a légitimé les inégalités dans notre société. Et les inégalités sont légitimes. Bon, développer, c'est pas ça mon intention, mais je crois qu'il y a là quelque chose d'assez profond, parce qu'on s'habitue quoi, à l'inégalité, et elles sont légitimes. Bon. Un autre point par rapport aux inégalités, c'est de montrer un peu qu'il me semble qu'il y a... C'est le système dans lequel on est. Et c'est pas simplement je dirais, l'illimité de l'une ou autre personne. Bon, le système, l'idée m'est venue, il faut la remarque ou l'analyse, simplement de l'entrefilet dans le monde qui disait qu'une entreprise avait décidé que le taux d'augmentation du salaire des cadres serait le même que le taux d'augmentation des autres salariés. Ça veut dire que dans cette entreprise, le taux d'augmentation des salaires des cadres était supérieur au taux d'augmentation des salaires inférieurs, des salaires plus bas. Ça veut dire qu'un salaire de 1500 avait 3% et un salaire de 4000 avait 6%. Alors, ça, c'est à supprimer, et on en revient à un certain niveau d'inégalité, d'égalité, d'augmentation. Mais, si on réfléchit, même dans ce système d'égalité d'augmentation de tous les salaires de la même manière, un salaire de 1500 euros, 4%, on voit ce que ça va faire. Un salaire de 4000 euros, 4%, ça va faire beaucoup plus. C'est-à-dire que quelque chose qui est accepté aujourd'hui par notre société de manière évidente, hein, la différence de salaire, ben, structurellement, cette manière de calculer fait que les inégalités augmentent. Et tout le monde est d'accord d'ailleurs. Hein. Bon, je me dis quand même que il y a en France aujourd'hui, par exemple, des prêts à taux zéro qui ne sont accordés qu'à des gens qui gagnent moins de, je ne sais pas combien, sur une année. Ça veut dire qu'on reconnaît là qu'il y a une inégalité et on favorise, hein, on favorise ceux qui touchent le moins. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi à s'interroger sur notre système de salaire ? Moi, je sais bien que c'est pas de mal à l'oreille qu'on va te poser ces questions-là, mais structurellement, notre système crée de l'inégalité.
Yes, I need to try to express some feelings that I think we have in the United States. I think that in spite of our fabulous election, that we are feeling that the democratic institutions have become incredibly corrupt, that we can't even speak of democracy in the same way as we used to in ideal terms. We are learning about contracts in Iraq, we are learning about secret arrangements, we learn about Tony Blair having some extraordinary arrangement with Saudi Arabia over billions of dollars. I've forgotten the exact details of the matter. That this and having worked in Francophone Africa, the French corporations and French policy in Africa has been ghastly for decades. That we have to question what democracy is meaning to us. And I think this is where the social sciences are extremely important, that we simply study that, that we bring it to light, that we are very clear about what is in fact going on under the rubric of democracy. What is actual practice results of what we are pleased to call democracy? And I might add that my children's generation, they're in their 30s, they're extremely worried about this debt that we are building up. It's monstrous. It's absolutely huge. How are they ever going to pay it? And we have our leadership, including our leadership that we have supported and think is very important, they are saying, well, we've got to do something. I mean, that's the explanation. We've got to do something. So they are putting our children's generation in a debt that, do we know how they're ever going to repay that debt? And their children are going to suffer not only from the debt, but from global warming and so on. I mean, it's real in our families that the institutions of our system, under the rubric of democracy, are radically corrupt. And moving resources in directions that protect some populations in quite secret ways and put other populations in incredibly vulnerable situations. And I think that the social sciences, that's our job, is to study that.
Yes, what I have gained from this week is a reflection on the relationship between politics and intellectual life that Mose himself always inspires, and which is one of the main interests I share with Alan that brought us together here. And to me, the most luminous reflection on this question are the two essays of Max Weber, Politics as a Vocation and Science as a Vocation. which very briefly he says that politics is about power and it's pursued by means of passion. But a politician has to be reasonable or he'll simply be seen as a madman. And science is the pursuit of knowledge by means of reason, but all the best scientists are passionate and about their work. And so what comes out of these two apparently conflicting paradigms is that in some combination of reason and passion is indispensable to both vocations. But behind this all, and Weber himself, as well as Mohs, was a very clear example of it, it's not easy to combine politics and intellectual life. The requirements of them are really very different. In fact, over the years, I've come to feel that the only satisfactory combination of them is to be in prison or exiled, because you have lots of spare time and you have a daily reminder of why you feel so bad about the situation. But I reflect on Mohs in the 1920s, this period in which The Gift was produced, in which his journalism was most prolific and his political aspirations were most optimistic, soon passed. And in fact, from 1925 onwards, the year when he was appointed to the Institut d'Ethnologie, from then on, his concerns became increasingly that of nurturing the infant ethnological project in France, and less politics. And so, I wanted from this week to come away with a new intellectual politics, and I'm not sure whether I have. I know that I've learned a great deal from individuals here. But also, like Jane said, I think I've come away with a very strong affirmation of the need to rescue our disciplines. Alain at this moment is leading, as he said, a major attempt to rescue the universities in France, and I think that's very important. And most of the people that I admire and have learned from were politically engaged, but their lasting legacy was intellectual. John Locke, Marx, Mohs. I don't think without their political engagement they would have been the intellectuals they were, but it isn't their political achievements that changed life and thought for all the rest of us. It was what they wrote. And I don't intend this as a criticism of the attempt to find a political project. But I believe that the left-right problem has to some extent been superseded by the problem of the level of political association that is appropriate for addressing the problems we face. There, at one level this is global, at another level national, but also we have seen the development of powerful regional associations, of which the European Union is the most important, but there are many others, and of course there are more informal virtual associations made possible by the internet and so on. And many of the great problems that we face are issues of where would we place our trust in seeking to combat those things that worry us. Those who believe that the nation state should be strengthened against global forces, bring together unions, Greens, racist anti-immigration groups, and so on. So that the it seems to me that one dimension of politics, which has been alluded to, is where can we fight the fight And who would be our allies if we chose to fight it in a particular place? And they wouldn't always be people we would choose to be associated with, certainly not by the logic of right and left in 20th century European politics. Those are just two reflections. They're not very constructive. But
can I have a very quick reaction to that? No, it's just because I'd like maybe to suggest that we continue reflecting on very important points that you made, to which you referred as well, the role of intellectuals and how their work can impact then on the system of values. Because you mentioned three names, you mentioned Locke, Marx, and Mauss, but the destinies of Locke, Marx, and Mauss have been very different. Locke has served for the Constitution of the United States and was a reference all over Europe. Marx as well, we know the role that he has played, the Mauss. And us. And, just
you mean there's a difference of scale or significance? Well,
very, very significant difference of scale. But then I'm asking, where does that put us in terms of what we say regarding the role that we want to give to social sciences?
Oui, merci. Bon, je m'excuse, je me sens tellement impliquée dans cette discussion que je n'arrive pas presque à rien dire, je ne sais pas. Mais simplement une réaction un peu chaude, disons, à ce que tu as dit, est-ce que vous êtes en train de dire ah oui. Bonsoir.
Nous sommes pas cinq.
Au micro, c'est
bon.
Moi, je crois que si je pense, par exemple, à la politique italienne, la catastrophe italienne, disons, j'ai toujours plus l'impression que un des problèmes plus grands de la gauche, si on peut continuer à l'appeler comme ça, c'est l'impossibilité, l'incapacité de reconnaître quelles sont les priorités. Les priorités à partir naturellement de certaines valeurs fondamentales, fondamentaux, tu les as un peu résumés, à partir de la liberté, la solidarité, la lutte contre la souffrance des êtres humains et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une coupure là, c'est-à-dire la politique, au moins la politique étatique n'est plus en mesure de reconnaître les priorités. Alors, à mon avis, les priorités sont essentiellement deux, de certaine manière tu les as dit, ce qui me fait un peu problème, c'est la conclusion de ton discours qui me paraît, je le dis d'une manière assez brutale, un peu trop marxiste. Je veux dire que, il y a un problème d'inégalité, les luttes pour la reconnaissance, les témoins tous les jours, la violence aussi de la lutte, des luttes pour la reconnaissance et tout ça, qui ne sont pas toutes légitimes de toute manière. Là, il faudrait commencer à faire des différences, parce que la différence en elle-même n'est pas immédiatement une valeur. Mais en même temps, il y a, à mon avis, quelque chose de complètement nouveau qui est, on peut l'appeler le problème écologique, mais ça ne me plaît pas beaucoup, c'est-à-dire c'est le problème vraiment de la menace, de la destruction du planète. Ce n'est pas seulement un problème écologique comme c'était il y a 10 ans. Donc c'est ça, la situation est tout à fait nouvelle de ce point de vue-là. Et je pense que, parce que ça c'est un point de départ qui de plus en plus amène à d'autres problèmes, parce que si on part de là, on arrive aussi aux inégalités et tout ça, et aux différences et tout ça, par rapport à ce problème fondamental. Et moi, je suis convaincue aussi, je ne crois pas qu'on peut s'inventer des valeurs universelles. Les valeurs naissent à partir des passions, à partir du fait qu'on est impliqué, qu'on est, disons, mobilisé. Alors, il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui peut unifier les gens, qui peut mobiliser les gens au-delà des différences, au-delà des inégalités et tout ça. C'est ça mon problème. Donc, c'est pour ça que le fait d'un revenu minimum pourrait être tout à fait radical, hein, tout à fait révolutionnaire, je dirais. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça. Moi, je pense, je dirais peut-être un mot qui ne vous plaît pas, mais je crois qu'il faut faire, excusez-moi, c'est un vieux mot, mais une révolution culturelle, c'est-à-dire on doit vraiment se mettre dans la perspective de modifier les styles de vie, de modifier les choix quotidiens. Donc, c'est beaucoup plus radical, à mon avis, ou quand même, les deux choses sont complémentaires.
Hein. Oui. Au nom de quoi le faire, si ce n'est pas de valeur ? Mm-hmm. Au nom de quoi le faire, ce changement radical, le mode de vie, mm-hmm. Ouais, c'est de valeur.
C'est ça. Mm.
Ah ben, mais c'est comme moi, on en dit ça, mieux.
C'est moi qui débatte d'intervention plus courte après.
Comment le faire, tu veux dire ?
Okay, from the point of view of anthropology, in those parts of the world where anthropologists have worked, including the people whose work was reviewed in paleosociology, these are marginal parts of the world where, in many, many cases, as has been said already, there is extreme violence, which we are almost impotent to affect. Things we do can even make it worse. My own work was in Sudan. Okay, there was a peace agreement negotiated over many years which came to fruition in 2005 between the central government of Sudan and the southern Sudan, where classic works in our subject have been produced. I have tried to follow the fortunes of people disturbed by civil war in the Sudan and in Ethiopia, where they became refugees, over four decades. I've done my best. You know, I've written reports for the UN. I was asked to play a very small part as a person giving background on a particular part of Sudan. I was asked to do this by the British Foreign Office, and I did that. The place is unfortunately falling apart again, partly because of Darfur, which is affecting the implementation of the peace in the southern Sudan. What is an anthropologist to do? You know, I'm rather in sympathy with Keith's point that the best we can do is to act as historical witnesses to what is happening in these areas. Who else is writing about those areas now? Who is writing about Afghanistan or the Pakistan border? Who is writing in Southeast Asia? Areas where there's tension and difficulty and fighting. Who is doing this apart from a few aid agencies who do not have the background, who do not have time to read the older literature on the Eskimos or the Maoris or the southern Sudanese? And it seems to me that politics in Europe is relatively marginal by comparison with the power of not only the American government, but the oil companies from Malaysia and China, and the arms companies based in China who are selling arms to Sudan. There are, you know, UN sanctions and US sanctions against trading with Sudan. So where do they get their arms and their oil investment from? From China, Malaysia, Iraq to some extent. What can one do except be a historical witness and write the best insightful commentaries on areas that one has had the privilege of getting to know at an earlier stage through our particular discipline. And to bring the literature from earlier periods that people have produced, to bring that literature to the attention of those who are in positions to affect policy and investment. Let me stop there, I'm getting a bit tired, but I think that in anthropology particularly, mm-hmm. we have to face the fact there's a new kind of colonialism going on across the more vulnerable parts of the world, which were of very great interest to most.
Okay.
So I think this is really interesting. If in my mind, as I put together what maybe Alan and Keith and Wendy have said, it seems to me that if we take seriously, for example, the program that Alan announced at the end, which is minimum wage and a limitation on maximum income, that there are things that we in this room can do. I mean, we can do them together. And that is, we all have different specialties, and we can, I mean, for example, we could create some kind of internet system whereby we do research on the questions that we know how to do as sociologists or economists or anthropologists or lawyers about how to structure all of this. I mean, for example, if we wanted to look at the minimum income, there could be all sorts of debates and papers about the various places in the world where there are minimum incomes, and what are the results of those, and what are the problems with the way each of those are structured, and what happens, what benefits arise when in societies that do have that kind. I imagine that in Scandinavia there must be something like that, and what benefits arise there, and how different are the different societies. And the same for the maximum income. And, you know, as a there could be a comparative law work, or there could be, I mean, there's just a huge amount of work that we could do, and the most important part of it is if we start putting papers on the web in all of our different languages and open it up to have papers included and debates and blogs from people all over the world, we could generate the kind of intellectual passion and fervor and also scientific knowledge that Weber would be proud of, and that would perhaps present the kind of concrete program that would encourage countries around the world to begin to enact it. I think it was Jonathan, I can't remember who else, was worried about how do we get this to happen in Burma. I don't think that's the problem. I think that's easy, actually. I think that once the countries of Western Europe and the United States enact things like this, if we gain a kind of hegemony for this idea, we can convince the World Bank and the IMF that these should be part of the conditions that they impose. Instead of imposing their neoliberal conditions on countries around the world, they could require governments to get loans from the IMF to give a minimum income. I mean, it's just, I think that a lot of it can be won through our work in our own countries and through the things that we have control over. But the thing that I would be most interested in here is if we could construct some actual, I mean, we do our intellectual work in the day, but I would really love to see whether we could do some kind of political intellectual work here this evening.
Okay, Karen.
Two points. One is what everyone else has been saying, it's the role of the intellectual, and two, the bigger question of conscientization, which is tough. And in regards to the role of the intellectual, there's a possibility of thinking, to use a metaphor, what is a hero? And you know, we've got greats, we have Holmes, we have Marx, we have Rousseau, but perhaps one of the things that has happened to me as a result of working in anthropology is that I found in the paper that I gave that the men in Papua New Guinea who were transacting more in order to meet obligations across a region rather than within a village became heroic political actors for me, and this became an inspiration to think about how a politics might happen there. But that brought me to a new problem of conscientization, because I'm not entirely certain that they are affecting Moses' project, even though I could see that in the first version of it. Because what is happening to them is that even as they increase the number of social relationships they have, broaden their network through maximizing the transactions that they have within a region, and increase the speed at which they effect those transactions, they're exhausting themselves. So that, to borrow a metaphor from the internet, they're just speeding up. That's not necessarily a successful extension of the MoSAM project. And while we might appear to be grasping at a new way of doing something, so in the same breath we can also be trapping ourselves into something worse. And conscientization is one of those issues upon which we are not entirely certain that we have found the mode of political action when we are even looking, when we think we're most clearly looking at it. So how do we know who to follow is the way, or how do we know who to trust is one of the ways in which Keith put it. And I have some doubts about even finding the local heroes, I suppose, that I mentioned in the paper. So, it's a reservation.
Okay, thank you. Alan, tu veux peut-être dire quelque chose maintenant? J'ai deux petites demandes timides par rapport. Jacques,
Très bref. C'est juste pour réagir à ce que tu as dit. Je suis complètement sympathétique à ce que tu as dit. En même temps, je pense qu'il y a une naïveté dans le projet. Et je supporterais le projet intellectuel et dirais que le projet politique doit être réfléchi. Je suis vraiment en faveur de la construction de relations, que les gens se connaissent, que les gens collaborent avant que la pensée politique émerge. Et la pensée politique doit émerger de quelque chose qui est en travail plutôt que d'être artificiel et de reposer sur une sorte de rêve.
Moi, je suis très content, en tout cas, ça a vraiment fait une grande discussion. Je retiens trois points pour finir. Le premier, c'est, je crois, un constat très, très tragique que nous faisons les uns et les autres sur l'état de la démocratie. C'est ce qu'exprimait à la fois Jen et puis Wendy. Là-dessus, deux choses, c'est pas le lieu d'en discuter. Je me suis aperçu que, je développe depuis quelques années, certains amis le savent, des thèses sur l'état de la démocratie qui sont très, très critiques. Je pense que nous sommes dans des formes. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un auteur américain que j'ignorais totalement, qui développe les mêmes idées, qui s'appelle Sheldon Wolin. Et il parle de totalitarisme inversé, inverted totalitarianism. Bon, moi, je parle de parcellitarisme pour faire l'opposition avec les parcellitarismes, et l'idée est absolument la même. Donc, je pense qu'effectivement, pour l'essentiel, nous ne sommes plus dans des démocraties, mais dans des formes très paradoxales de rapport social qui reprennent certains traits du totalitarisme en l'inversant radicalement. Enfin bon, ça c'est une vaste discussion. Mais le point fondamental qui rejoint quand même la question sur le statut des valeurs et au cœur de la démocratie, et qu'il faut bien l'affronter, c'est qu'on ne peut pas espérer faire vivre des démocraties ou les faire revivre si on ne développe pas des valeurs démocratiques et si on ne produit pas des individus qui développent des valeurs démocratiques. Il n'y aura pas de démocratie sans démocrate. Or, nos sociétés fonctionnent comme des démocraties sans démocrates, avec uniquement des procédures. Donc la question des valeurs est absolument centrale. Soit nous pouvons produire des héros, comme dit Karen, qui sont capables de se dévouer à des valeurs démocratiques, soit de toute façon il n'y aura rien du tout. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur les discussions sur la façon dont j'avais essayé de donner une traduction concrète possible de tout le débat sur les valeurs, par l'idée de revenu minimum et de revenu maximum. Alors, comme le dit très, 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 très justement Elena, tel quel, si on résume à ça, ce n'est pas suffisant. On ne voit pas où sont les passions qui peuvent animer ce projet-là. Il faut qu'il y ait des passions qui permettent de mobiliser des gens. Et le projet revenu minimum maximum n'est pas un projet qui vaut par lui-même. Tout ça, il est simplement la traduction concrète en termes de mots d'ordre de certains points plus fondamentaux. Mais et là, je crois que Jacques-Pierre l'a dit très bien au début, rien ne se passera s'il n'y a pas, en quelque sorte... On se mobilise politiquement toujours contre quelque chose, contre un danger. C'est là les passions dont tu parles. Or, la source première de la mobilisation, on voit bien, on devine bien maintenant d'où elle peut venir. C'est pas la mobilisation contre un ennemi identifiable, l'ancienne Russie, ou les Américains, ou les Allemands, je sais pas quoi. Non, ça va être une mobilisation contre le risque de mort de la planète, c'est ça le point fondamental, contre la peur de la catastrophe. Et c'est uniquement si cette peur de la catastrophe devient suffisamment puissante, et là je rejoindrai très largement notre ami Serge Latouche, c'est uniquement si la peur de la catastrophe devient suffisamment puissante que l'idée d'un revenu minimum et d'un revenu maximum commencera à prendre véritablement toute sa dimension. Et puis, troisième point, dans cette histoire-là, que peuvent faire les sciences sociales, les intellectuels, ce que nous sommes? Alors ça, c'est la question à la fois de Keith, en partie la question de Wendy, la question de Richard. Deux remarques. La première sur ce que disait Keith, je suis à la fois d'accord et pas totalement d'accord. C'est évident que le rôle de politique, en tant que le rôle d'homme politique, de Max Weber, de Mauss, de Marx, de Locke, etc., n'a pas été un grand triomphe. C'est pas par ça qu'ils sont restés dans les... Pour Marx, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bon. C'est pas par ça qu'ils sont restés dans l'histoire. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas été des bons politiciens, des bons hommes politiques, qu'il faut en déduire que leur œuvre n'a pas été une œuvre politique. Tu vois, il y a un débat qui est un peu différent. Moi, je pense au contraire que c'est parce que toutes ces œuvres, aussi bien celles de Marx que celles de Weber, de Locke, bien évidemment, ou de Mauss, avaient des implications politiques extraordinairement prégnantes, qu'elles sont restées importantes d'un point de vue cognitif, d'un point de vue scientifique. C'est ça le paradoxe, c'est un des paradoxes épistémologiques, c'est qu'en fait, les sciences sociales sont pertinentes scientifiquement, apportent de la connaissance, quand elles sont puissantes du point de vue axiologique, du point de vue normatif. Et au contraire, les sciences sociales actuelles, qui commencent enfin à réaliser leur objectif d'asepsie axiologique, de neutralité axiologique, se vide de puissance cognitive. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut assumer, pour les sciences sociales, et je termine sur ce que disait Richard, il faut que les sciences sociales assument leur dimension axiologique, leur rapport aux valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer son temps à énoncer, à faire de l'idéologie. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut penser ce lien étroit entre la connaissance et les valeurs, qui est fondamental. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Sur la proposition de Richard, je pense que si elle se limitait à créer un réseau de discussion sur revenu minimum, revenu maximum, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas parce que y a beaucoup d'expertise, généralement des économistes, alors quelques sociologues spécialisés, qui rassemblent un peu d'informations comparatives. Il y a des revues spécialisées pour ça, sur les politiques de revenu minimum. C'est généralement pas très intéressant, personne ne les lit, mais enfin, ça existe. Donc le travail que nous pouvons faire, c'est sûrement pas de nous substituer aux experts de ces politiques sociales, mais en revanche, pour aller dans ton sens, ce qui, je pense, pourrait être intéressant, ça serait de créer sur Internet, comme tu le dis, un lieu de discussion qui nous permette de reprendre la discussion que nous avons là. C'est-à-dire qui permette de reprendre la discussion sur le rôle politique de la science sociale, voilà, sur le rôle éthique et politique de la science sociale. Alors, comment ça peut s'organiser, j'en sais rien. Ça partira dans des directions différentes, mais ça peut être le point de départ véritablement important, où on peut échanger à la fois des débats épistémologiques et des débats normatifs et des débats politiques. Comme on fait là. C'est bien ? Bon, merci à tous. Merci.